C'est la deuxième heure de ce 1265e Sweet Home Chicago et c'est la deuxième partie de Blues à Pau avec sept nouveaux invités: Jacques Gasser, Stéphane Andrieux, Stephen Earle, Dave Herrero, Nick Owen Toussaint, Kevin Denard et Jacques Morgantini. Cette série d'interviews constitue le second épisode de deux émissions consacrées au premier mois du Blues à Pau en décembre dernier. Durant plus d'un mois, toute la ville de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques se mobilisait pour célébrer les 100 ans qu'aurait fêté Jacques Morgantini, qui nous a quittés le 2 décembre 2019. À l'invitation de Monsieur le maire, devenu entre-temps Premier ministre, le mois du blues à Pau aura permis la concrétisation de l'amour des Palois pour nos musiques qui ne datent pas d'hier et qui perdurent. On l'aura abondamment constaté. On commence avec Jimmy Johnson, qui aura connu son tout premier enregistrement avec Marcel et Luc Morgantini à Chicago pour MCM. Voici pile un demi-siècle en 1975. Ça s'appelle « Feel So Bad ».
Trying to tell your people, trying to tell you just how I feel. Yes, I do. Lord, I'm trying to tell your people, trying to tell you just how I feel. All right. You know my baby left me, yes she did. My baby gave me a dirty deal. I wanna stay, yes I do. Right sometime I wanna leave, and again I wanna stay. Alright. Since I got my mind made up, catch a train right away, yeah. Won't you ride away? Run on, run on, run on.
Phil Soba, Jimmy Johnson, nous étions en 1975 chez MCM Records sur l'album Mabea's Rock qu'il partageait avec Luther Johnson Jr. La première interview est celle de Jacques Gasser, vidéaste et grand amateur collectionneur compulsif de témoignages du vivant, amoureux du blues et réalisateur de mémoires de blues, le double DVD qu'il a consacré à Jacques Morgantini, sorti en 2016. À travers des interviews et des extraits musicaux dont beaucoup sont des témoignages inédits de bluesmen légendaires, Jacques Gasser a su capter l'œil qui frise d'un homme, Jacques Morgantini, 1924-2019, qui aura littéralement découvert le blues pour que le reste de la France puisse le découvrir par la suite. Voici le témoignage de Jacques Gasser, commissaire politique de l'exposition consacrée à Jacques Morgantini durant le mois du blues à Pau et qui est également force de proposition d'idées pour une seconde édition éventuelle en décembre 2025. On écoutera ensuite Magic Slim dans son tout premier témoignage sur disque capté en 1976 par le label MCM, Marcel Chailleux Morgantini. Le mois du blues à Pau est également avec Jacques Gasser. Bonjour Jacques.
Bonjour Marc.
Alors, il y a une question qu'on se pose. D'abord, tu es, on va le rappeler, commissaire de cette fameuse exposition Jacques Morgantini, dont on a déjà parlé.
En fait, je suis plutôt commissaire politique, politique de la culture et de la mémoire.
Et je voulais savoir, pour nos auditeurs, si tu pouvais nous rappeler en quelques mots, comment tu as été mis en contact avec Jacques Morgantini, quel a été le premier contact finalement?
Bien, le premier contact, ça a été en 2000... J'ai eu Marcel Morgantini au téléphone, son épouse, pour faire son interview. Et puis, elle m'a dit, mais écoutez, il faut d'abord qu'on écoute un peu de musique ensemble. Et venez à la maison, etc. Et puis, en fait, je ne l'ai jamais fait parce que je pense que j'étais très pris par mon travail. Et 7 ans après, j'ai appris la disparition de Marcel Morgantini. Et donc, à partir de là, le lendemain, j'ai appelé Jacques Morgantini et j'ai pris rendez-vous avec lui. C'était en 2009, printemps 2009. Et donc je l'ai convaincu de faire un documentaire plutôt parce qu'il ne voulait pas écrire un livre. Donc nous avons pris un autre rendez-vous pour la première interview. Voilà.
Voilà. Et ensuite, bien, c'est enchaîné la réalisation de ce mémoire de blues qui est sorti, je crois, en 2016.
Oui, février 2016.
Et tu as eu l'occasion, Jacques, de faire, d'organiser des conférences pour Jacques Morgantini. Donc sur la fin de sa vie, il a pu transmettre un petit peu ce qu'il avait vu, fait et puis fait faire avec sa femme et leur fils, je crois, Luc également.
Oui. Hein. Oui. La première conférence, c'était à Madrid, le documentaire n'était pas fini. La deuxième conférence c'était à Barcelone, mais il n'a pas pu venir, donc j'ai assumé à sa place. Et puis ensuite, il a été 2 fois au Cahors Blues Festival pour, il était sollicité pour faire des conférences. Il a fait une conférence également, je crois, en Vendée et puis aussi en Bretagne. Mmh. Voilà, mais là je n'étais pas avec lui. Et puis chez lui, bien sûr, il faisait toujours des stages donc pour un certain nombre d'initiés quand même, qui le connaissait et qui venait faire des stages chez lui où il passait sa mémoire. C'était des stages sur des thématiques, blues ou jazz, voilà. Et puis ensuite, il est quand même intervenu une fois aussi à la médiathèque de Pau pour présenter 30 minutes de mémoire de blues, le résumé. Donc là, il était là pour répondre aux questions. Tout le reste se passait chez lui. C'est-à-dire que à partir du moment où il a commencé à émerger à nouveau un petit peu, où on voyait son nom un peu partout, des musiciens m'appelaient pour prendre rendez-vous avec lui et le rencontrer. Parce que je crois que il était une légende et donc personne n'osait l'approcher, dont moi, hein, je n'avais pas osé l'approcher au départ. Et donc ces musiciens, c'était la même chose, ils ne pouvaient pas lui téléphoner directement pour lui demander de le rencontrer. Donc ils m'appelaient, on prenait rendez-vous et les emmenaient chez Jacques. Et c'est comme ça que bon nombre de musiciens, comme Nico, comme Michel et Gladys et d'autres, Raoul Fissel ou plein d'autres, Kadidjo, ont pu rencontrer Jacques et ils sont venus jouer en concert chez lui.
Ta relation avec Jacques Morgantini jusqu'à sa disparition en 2019, c'était quelque chose d'un petit peu particulier. Tu viens de nous le dire en d'autres mots, peut-être un peu comme son impresario, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas quelqu'un qui faisait le tampon entre les gens qui le sollicitaient et lui-même, parce que vu son grand âge, c'est vrai que peut-être c'était compliqué aussi de gérer un agenda, je ne sais pas. Jusqu'à la fin, il a vraiment bien assumé son rôle de passeur quand même.
Absolument. Simplement qu'il était âgé, donc il fallait l'accompagner. Et puis, il fallait veiller un peu à sa santé, à son sommeil. Alors, je n'étais pas son impresario. J'essayais de trouver des endroits où il pouvait aussi passer sa mémoire. Enfin, voilà. Et quand on ne l'appelait pas. Et puis, après, je veillais sur lui comme un ami. Oui, voilà. C'est ce que je dis toujours quand on me demande qui était Jacques Morgantini pour moi. Je dis, pour moi, il était une légende. que j'avais du mal à approcher, que je n'osais pas approcher, et il est devenu un ami. Voilà.
Alors ce mois du blues à Pau, qui est arrivé comme ça un petit peu rapidement, sous la houlette notamment de la municipalité, et puis du conseiller artistique Jazz à Pau, Stéphane Cochoyan, dans quelle mesure est-ce que tu en étais partie prenante, et comment es-tu devenu en fait commissaire de cette exposition consacrée à Jacques Morgantini ?
Alors, dans l'histoire, il était question de réunion pour faire quelque chose autour du blues.
Tout était à bâtir en fait, au
départ. Oui, et ensuite, donc cette réunion n'a pas lieu, et donc quand j'ai appris qu'il voulait faire quelque chose pour Jacques Morgantini, je me suis carrément invité, parce que je me suis dit, je ne sais pas qui va leur fournir des éléments pour ça. Et puis, on a eu une première réunion avec la mairie de Pau et Stéphane Cochoyan, la médiathèque de Pau, pour le réseau des médiathèques. Et là, tout s'est enchaîné. J'ai fait des propositions de contenu, en plus de ce qui se passe pour le mois du blues, mais des propositions de contenu pour Jacques Morgantini. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, commissaire, moi j'ai rien demandé, on m'a nommé commissaire parce que il fallait quelqu'un qui gère un peu l'ensemble de cette exposition et ce qui se passait autour de Jacques, et j'ai proposé à ce moment-là aussi d'y adjoindre des éléments de la musique de Pau, c'est-à-dire du patrimoine musical palois, d'autant plus qu'un livre venait de sortir sur les mémoires de concert. Donc j'ai proposé aussi La musique dans la Pau, un documentaire qui relate les groupes de blues et de blues rock qu'il y avait dans les années 70-80, qui font partie de l'histoire du blues béarnais et que beaucoup de gens ignorent. Donc c'était juste histoire d'alimenter concrètement le mois du blues, voilà, et l'hommage à Jacques Morgantini que Stéphane Cochoyan voulait faire et que la mairie de Pau voulait faire.
Alors une autre question en corollaire à tout ça, Jacques Gasser, donc l'organisation de cette exposition a donné lieu bien sûr à un vernissage. On a pu constater qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde, peut-être attiré par les souvenirs autour de Jacques Morgantini, mais également par le showcase d'une partie des musiciens du Chicago Blues Festival. Il y a eu aussi beaucoup de monde à la rencontre que tu as proposé autour de la projection de ce résumé d'une trentaine de minutes de mémoire de blues, et avec des questions intéressées. Il y a eu également la projection un concert de Magic Slim qu'il avait donné en 2010 sur la ville de Pau, qui a fait venir du monde aussi. Et quel bilan est-ce que tu tires déjà, Jacques, on va dire de l'engouement, ou en tout cas de la participation du public de Pau pour ce genre d'événement ?
Ah oui, je suis complètement scotché, surpris, parce que quand je suis arrivé à Pau, et il y a longtemps, 79, 80, enfin, et dans les années 80, 82, le public, c'est un public très froid. Et que Jacques me racontait que lorsqu'il organisait des concerts, il y avait quelqu'un qui, de chaque côté de la scène, un petit peu, qui faisait frapper le public dans les mains, etc. Voilà, c'était pour les motiver. Et là, actuellement, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire on a affaire à un public curieux, un public motivé, des découvertes aussi bien du jazz que du blues, et au-delà du Zénith, hein, j'allais dire dans une autre salle qui est la salle du Foirail dans le mois du blues, c'est un public je dirais intéressé, qui découvre et qui devient passionné, à tel point qu'on est obligé de doubler, de faire attention aux jauges de salle. C'est un public qui pose des questions, je le trouve chaleureux, ce public, par rapport à avant.
Dernière question, Jacques. Stéphane Cochoyan nous a annoncé une deuxième édition pour décembre 2025. Si tu es sollicité, ou en tout cas si tu le souhaites, tu y participeras d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as déjà des idées ?
Oui, j'ai des idées. Je vais peut-être garder un petit secret là-dessus.
D'accord.
Parce que je voudrais d'abord un petit peu travailler ça avant de le proposer, et avant peut-être que ce soit public.
D'accord. Voilà. Eh bien, rendez-vous en décembre 2025 pour le deuxième mois du blues. Jacques Gasser, merci. À très bientôt.
Merci, Marc. Merci.
I might be driving a Cadillac. I'm a Georgia boy, not a paradise. No, you might wanna come back. No, this grass ain't no green on the other side of the we'll be right back.
Jacques Gasser en interview et Magic Slim avec Born Down the Bridge sur l'album Born Under a Bad Sign chez MCM. On était en 1976. La seconde interview est celle de Stéphane Andrieux, responsable de l'action culturelle au sein du réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération Pau, Béarn-Pyrénées. Également musicien, il exprime son rôle dans l'organisation de ce premier mois du blues à Pau et l'importance de Jacques Mangantini dans la connaissance du blues en France. Exploiter ses archives et les multiples pistes qui restent à exploiter pour les rendre disponibles à chacun reste un chantier immense. Stéphane Andrieux nous le fait toucher du doigt. Son regard d'artiste est également sollicité lorsqu'on évoque ensemble la magie instantanée du magnifique showcase offert par Stephen Hall, Dave Herrero et Nick Owen Toussaint. On écoutera par la suite Big Joe Turner qui reste l'un des préférés de Monsieur Jacques Mangantini. Ici à la médiathèque de Pau, je suis maintenant avec Stéphane Andrieux. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Quel est votre rôle ici et pourquoi et comment tout ça est arrivé finalement? Cet hommage à Jacques Mangantini et puis ce showcase avec les musiciens du Chicago Festival.
Alors moi je m'occupe de la programmation du réseau des médiathèques, donc tout ce qui est conférences, expositions, concerts, etc. Et ça faisait un petit moment qu'on avait envie de travailler sur le blues. On a eu la chance de pouvoir rencontrer Jacques Gasser et on a même eu la chance d'avoir une des dernières conférences de Jacques Mangantini ici. Alors il y a quelques années de ça, mais Jacques Gasser nous avait introduit auprès de Jacques Mangantini en disant non, il faut absolument qu'on fasse une conférence, c'est génial. On avait vu son documentaire de mémoire de blues et puis on en était resté là. Et finalement, l'année dernière, Jacques revient vers nous en disant bah, ça aurait été les 100 ans de Mangantini, ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose.
Alors, ce quelque chose, il a été concocté, décidé comment finalement?
Alors, au départ, il y avait l'envie de faire une exposition, mais on connaissait pas la dimension exacte. Et puis, on avait une autre piste qui était la programmation du Foirail, donc de la saison de jazz. Et notamment bah, du Chicago Blues qui revenait. Et on s'est dit, ok, là, il y a quelque chose à aller travailler parce qu'on a des musiciens, on a une communication qui va aller dedans, on a Mangantini, on a... En fait, il y avait plein de ressources qui suffisaient d'agencer, de mettre en forme pour pouvoir faire quelque chose. Donc après, le reste, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a comme photo, qu'est-ce qu'on expose, quels sont les objets, comment est-ce qu'on peut raconter la vie trépidante, extraordinaire de Mangantini au public qui le connaît, mais au public qui ne le connaît pas aussi. Et puis, comment est-ce qu'on va faire ressortir tout un tas d'archives qui existent et d'enregistrements et de choses qu'on a nous.
Vous parliez de dimension tout à l'heure, la dimension peut-être géographique du lieu de l'exposition, mais aussi la dimension intellectuelle, la dimension historique, la dimension en matière aussi de transmission de tout ce qu'a pu faire Jacques Mangantini, mais également son épouse Marcel et leur fils Luc, parce qu'ils ont également énormément travaillé à la reconnaissance du blues ici en France, sans omettre le fait que, par exemple, Big Bill Bronzy ait été le tout premier bluesman à avoir foulé le sol français en 1951. C'était dans la propre maison de Jacques Mangantini. Là, ça donne le vertige parfois. Enfin, pour un amateur de blues, en tout cas, ça peut donner le vertige. Comment est-ce que vous avez appréhendé toute cette dimension, finalement?
Alors, on a appréhendé ça de manière très, très simple. Alors d'abord, c'est marrant parce que Jacques Mangantini, c'est quelqu'un ici qui a eu une influence énorme. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai rencontré des musiciens.
Musicien vous-même.
Moi aussi, ouais. J'ai rencontré des musiciens ici qui sont allés chez Jacques et qui me disaient « Ah, c'est génial, on était là-bas, mais tu te rends pas compte. » Donc, petit à petit, moi, j'ai découvert, j'ai jamais eu la chance de pouvoir discuter avec lui, mais petit à petit, j'ai découvert son travail, son engagement, la passion qu'il vouait à cette musique-là. Et c'est incroyable de se dire, en fait, ces mecs-là sont venus à Gand. Ils ont mangé l'omelette au cèpe de Jacques.
Son cassoulet.
Ils ont jamais chez lui. Ils ont enregistré des albums chez lui. Et tout ça s'est passé là. Donc, derrière, il a fallu alors aller prendre des choses, sélectionner. Encore une fois, c'est pas un musée. Il y a une vingtaine de photos. Et de se dire, ben, on va essayer de ressortir ce qui est vraiment important dedans, ce qui fait du sens, les objets, qu'on ait cette proximité-là et qu'on se dise, ben, ça s'est passé là. Voilà, les photos qui sont là, elles parlent d'elles-mêmes, en fait.
Donc, des objets qui ont fait partie de son quotidien, dont le Nagra qui lui a servi à faire un certain nombre d'enregistrements,
ouais.
Des photos sélectionnées par Jacques Gasser, dans la collection Jacques Gasser de Jacques Mangantini également.
Ouais.
Donc un choix restreint forcément par rapport à toute la richesse. Est-ce que d'autres pistes étaient envisagées, finalement abandonnées, faute de moyens techniques? Est-ce qu'il y avait d'autres idées comme ça qui ont jailli lors de toutes ces réunions que vous avez pu avoir par exemple?
En fait, la question de la dimension, elle s'est imposée par l'espace dont on dispose. Ouais. On aurait pu imaginer faire quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire on pourrait se dire il faut tout faire ressortir. Est-ce que, par exemple, en dehors de l'image, moi c'est le son, même si on l'entend quand on regarde les photos parce qu'elles sont tellement bien prises qu'on a l'impression d'y être. Et moi ce qui m'intéresse c'est de se dire en fait il y a plein d'archives qui existent, qui sont sans doute pas exploitées, que personne n'a entendu. Alors là je sais qu'on va entendre, il y aura une petite surprise là sur la conférence de Jacques Gasser où il va nous ressortir sortir un morceau, et je dis pas lequel, mais qui n'a jamais été entendu. Voilà, il fait partie d'une des sessions en disant, voilà, il y a 3-4 morceaux qu'on a enregistrés là, il y en a un, c'est une bombe. Voilà, sauf qu'il n'y a pas assez avec un morceau qui est vraiment bon pour faire un album. Donc, par contre, ça vaut le coup de l'écouter. Donc on se dit là, il y a encore des pépites, il y a encore un filon, et c'est ça qu'on n'a pas encore exploité. Comment est-ce qu'à un moment, et moi, ça nous intéresse particulièrement en tant que bibliothécaire, de dire, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette richesse-là? Est-ce qu'un jour, il y aura l'envie de numériser, mais là, c'est un boulot de dingue, parce que j'imagine qu'il y a des heures et des heures et des heures d'enregistrement. Comment est-ce qu'on fait pour le rendre disponible? Quels sont les droits? Quels sont... Bah, tout ça, ça reste en l'état. Et on aurait pu aller jusque-là, mais on n'a pas le temps, les moyens, les ressources. Et puis après, c'est un travail très, très long cours.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut envisager un deuxième mois du blues à Pau sur 2025-2026? Est-ce que la médiathèque en a envie? Est-ce que c'est quelque chose qui découle de source du fait de tout ce qui se passe aujourd'hui?
En fait, il faut faire attention avec les choses qui sont trop régulières, parce qu'à un moment, on n'aura peut-être pas la ressource. Moi, je crois qu'il faut se dire, si on a quelque chose d'intéressant, si on a quelque chose de nouveau, en plus, qui n'aurait pas été montré là, à montrer, allons-y. Mais le côté systématique peut devenir un peu laborieux. Au bout d'un moment, on n'aura pas forcément les ressources. On a déjà travaillé sur des thématiques comme ça, qui, ça marche super bien la première année, parce qu'on sort plein de documents, et puis l'année d'après, c'est un peu plus pauvre, parce qu'il n'y a pas forcément la ressource, on risque de tourner en rond. L'idée, c'est pas ça. En revanche, si on a quelque chose de vraiment intéressant, et peut-être que ce sera le cas, évidemment qu'on refera quelque chose, parce qu'on sent bien qu'il y a un public pour ça et qu'il y a énormément de documents, mais ne serait-ce que dans les choses très très officielles et très connues. La filmographie de Scorsese, ses documentaires sur le blues, ils sont fantastiques, et ça fait 25 ans que personne ne les a revus. Donc pourquoi pas retravailler avec ces documents-là? Pourquoi pas retravailler avec les images d'archives de festivals de blues qui existent par ailleurs? Voilà, donc ça aussi c'est encore sur la table.
Très bien, eh bien merci en tout cas pour tout ça. Merci pour ce que vous faites, merci pour le blues. Au nom d'un des humbles serviteurs du blues sur les petites radios hertziennes, merci pour tout ça et surtout continue, on n'oublie pas et on sait qu'il faut perdurer cette musique, même si parfois il y a d'autres musiques qui leur font de l'ombre. Le blues est toujours là, c'est la Lavenwell, on l'a encore entendu tout à l'heure avec ce magnifique showcase.
Génial.
Franchement, belle opportunité.
Hein. Ah oui.
Juste en guise de dernière question, vos impressions artistiquement parlant sur une de vos guitares, je crois, d'ailleurs,
ouais.
Les deux artistes américains qu'on vient de voir, Stephen Hall et Dave Herrero, accompagnés par Nico Wayne Toussaint. Un beau raccourci là encore.
Moi j'ai trouvé ça d'une simplicité éloquente. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour moi, la simplicité en musique, c'est la chose la plus difficile à atteindre. Et là, on y était. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de plus. On se rend compte que ces mecs-là, on leur met une guitare entre les mains, un Nico Wayne Toussaint qui va souffler derrière, et il se passe un truc. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Pour moi, ça, c'est la marque de la musique. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ce soir, ce sera autre chose au Foirail avec derrière d'autres musiciens. Mais là, ce qui est génial, c'est que tous les trois, en acoustique, de manière hyper simple, feu de camp, bah, ça joue et ça sonne.
La
Donc, voilà, c'est la marque des grands.
Ouais. Stéphane Andrieux, merci beaucoup.
Merci.
The blues are getting me a rocking chair. When I get the blues, they're getting me a rocking chair. Well, the blues overtake me, gonna rock right away from here. Now when I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell him on my way back home. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Give me one more kiss, hold it a long, long time. Give me one more kiss, hold it a long, long time. Now love me, baby, to the feeling hits my head like wine. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Well, she's so small, she can mumble in a payphone booth. Now flip, flop and fly. I don't care if I die. Now flip, flop and fly. I don't care if I die. Now don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Now
like a Mississippi bulldog sitting on a hollow stump. I got so many women, I don't know which way to jump. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Oh my.
C'était l'interview de Stéphane Andrieux et juste après Flip Flop and Fly, nous étions en 1955 chez Atlantic Records avec Monsieur Big Joe Turner. Troisième interview, Stephen Hull, artiste de la tournée Chicago Blues Festival 2024, qui donne ses impressions pétries d'étonnement et de joie suite au showcase effectué à la médiathèque André Labarrière de Pau devant l'exposition consacrée à Jacques Morgantini. On attend pour courant 2025 la sortie du premier album de Stephen Hull chez Alligator Records et aujourd'hui l'illustration musicale sera un extrait live capté en Argentine lors un hommage à Albert King, son mentor.
Stéphane Hull, very glad to see you here today in Pau.
You know, Stéphane Hull, nous sommes heureux de vous voir aujourd'hui à Pau. Vous savez pourquoi nous sommes ici cet après-midi, c'était en souvenir de Jacques Morgantini. Quelles sont vos impressions à ce propos?
Well, I personally feel it's amazing that someone had the dedication and the foresight to document and show love to blues musicians.
Et bien, personnellement, je pense que c'est incroyable que quelqu'un ait eu le dévouement et la prévoyance de documenter et de montrer son amour aux musiciens de blues. En tant que personne qui travaille très dur pour faire avancer les choses, c'est agréable de voir la reconnaissance de ceux qui font également avancer des choses et qui ont fait des choses. Et qu'un homme aussi monumental que lui soit reconnu et honoré aujourd'hui, ça me fait vraiment du bien de savoir que j'en fais partie.
Thank you, man. Thank you so much.
Merci beaucoup, à ce soir.
Thank you.
C'était la mini-interview de Stephen Hull et puis on écoutait un tout petit extrait de Crosscut Soul Live au Bebop Club de Buenos Aires en Argentine en 2023 à l'occasion du 100e anniversaire d'Albert King. Quatrième interview, Dave Herrero, lui aussi artiste du Chicago Blues Festival 2024, présent lors de ce showcase qui aura réuni plus de 200 personnes, nous livre également ses impressions et témoigne de sa gratitude. Nous écouterons un extrait de sa discographie avec le titre « Hello ».
So I'm now with Dave Herrero in this afternoon for a memory.
Je suis donc maintenant avec Dave Herrero cet après-midi en souvenir de Jacques Morgantini. Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Quels sont vos sentiments aujourd'hui sur ce qui se passe actuellement?
Oh, it's beautiful, man. To see the love and the support and appreciation for the music is it's a very beautiful thing.
Bon, c'est magnifique, mec, de voir l'amour, le soutien et l'appréciation pour la musique. C'est une très belle chose, tu sais. Je ressens beaucoup de gratitude d'en faire partie. C'est très bouleversant, en fait. C'est un sentiment incroyable de voir à quel point il y a beaucoup d'amour pour ce que nous faisons.
C'est
une question d'amour? Oui, c'est incroyable. C'est bien de ça qu'il est question.
See you tonight.
Great.
Merci Dave, merci frère, à ce soir.
Every night I play.
Interview de Dave Herrero et puis un extrait de Hello sur l'album Austin to Chicago en 2008. La cinquième interview est celle de Nico Owen Toussaint, vous le connaissez, artiste emblématique du Béarn, ambassadeur mondial de l'harmonica blues, l'homme qui a dédié sa vie à la musique depuis plus de 30 ans. On connaît Nico Owen Toussaint depuis longtemps dans l'émission et on apprécie toujours ses interventions pleines d'à-propos et de passion, autant que ses concerts magiques et ses albums magnifiques. Voici son court témoignage capté juste après ce fameux showcase du 7 décembre dernier où il évoque la tournée du Chicago Blues Festival, sa formation quartet actuelle qui comprend Rémi Granger, Romain Gratalon et Michel Foison et l'accueil à porter à la sortie de son album From Clarksdale With Love qui va jusqu'à Memphis et dont nous écouterons le titre Make It Count.
Avec Nico N. Toussaint ici à la médiathèque de Pau, et je voulais juste avoir quelques impressions. D'abord, mais le fait d'avoir partagé ce petit moment acoustique avec Dave Herrero et Stephen Hull, c'était comment? Tu l'as vécu de l'intérieur?
C'était sympa, c'était très sympa. Très détendu. Ils sont très détendus.
Bon, la setlist n'était pas établie, on est d'accord, c'est la magie du blues.
Bah oui.
J'ai des harmonicas en do, en mi. Vous essayez de pas faire un blues en là, quoi. C'est ça
mais
l'idée.
Ils allaient jouer en acoustique, c'était à peu près gagné que ce soit mi et là, quoi.
Bon, mi et là, très bien. Et ce soir, au Foirail, comme hier soir, alors, tu les as vus sur scène, tu étais sur scène avant avec eux. C'est un bon cru 2024, le Chicago Blues Festival, Nico?
C'est étonnamment un cru qui a résisté à 5 semaines de tournée. Et il y a une bonne ambiance entre eux, très bonne ambiance. Et ça, c'est super. Et la chanteuse,
Sheryl Youngblood,
je dirais, elle est très investie. Elle est dans le spectacle même quand elle n'est pas en lead, en fait. Donc c'est super.
Et donc, une petite différence par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est vrai que les artistes défilent les uns après les autres. Là, ils sont tous là ensemble.
Voilà,
début
c'est
à la
ça.
Fin. Spécificité pour cette année. Hein.
Ouais. Et c'est bien. Enfin, je sais pas. C'est un groupe, en fait. Ils s'entendent bien. La preuve, c'est qu'ils n'ont eu aucun souci à s'accompagner, à jouer ensemble tout à l'heure, gratuitement, puisque c'est comme l'avait précisé les organisateurs, c'était hors contrat. Et ils le font pour de bon cœur, en fait. Et ils jouent ensemble de bon cœur.
En deux mots, ton quartet, donc toujours Michel Foison à la guitare, Rémi Granger à la basse maintenant,
voilà.
Qui est là depuis quelques mois.
Un an déjà.
Et puis à la batterie,
Romain Gratalon,
qui est là depuis 9 ans. Depuis 9 ans, très bien. Avec cet album qui sort en ce moment en physique, From Clarksdale With Love, qui a des bons succès et qui vient d'être premier à l'airplay du collectif des Radio Blues.
Voilà, c'est bien. Et je crois qu'on est au 11e au niveau, et premier français au niveau international.
Donc on t'attend au Big Blues Chart mondial parce que voilà, ça mérite d'être largement exporté. Mais
mon disque va partir et représenter la France à Memphis dans la catégorie des autoproduits. Donc
félicitations.
On verra ce que ça va donner.
Ah, vraiment, félicitations pour ça.
C'est rigolo de voir...
Tu connais bien Memphis, Nico.
Ouais, mais c'est rigolo de voir comme ça, quand on jette les dés, qu'est-ce qu'il en ressort.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Parfois rien, et puis parfois on est surpris.
Merci Nico, à ce soir.
Merci, hein. À tout à l'heure.
Let's get along, let's make a count. Soon I'll be gone, and I ain't here long. Not from here, sure you can hear it. But if I'm here, it's 'cause I'm worth it. Let's make it count, soon I'll be gone. I ain't here long. Let's make it count, let's get together. Let's make it count. Let's write a chapter. Let's make it count. It's now or never. Let's make it count. Let's make it count. I'm not from here, I wish I'd be. Got the girls from here, they're mighty pretty. Let's make it count. Soon I'll be gone, I ain't here long. Let's make it count. It's now or never. Let's make it count. Let's make it count. I'm not from here, and I ain't here long. No time to waste. Let's get along. Let's make it count. Soon I'll be gone, and I ain't here long. Bye bye, baby. Now.
Nico Wayne Toussaint en interview, et Nico Wayne Toussaint avec Make It Count, extrait de From Clarksdale with Love. Sixième interview, Kevin Dellard, artiste de Tarbes et de Pau, maintenant invité à intervenir durant le mois du blues à Pau, nous parle de sa musique, largement inspirée d'Harry Monks. Comme lui, il est adepte de la Mohanvina, cet instrument indien qu'avait déjà apporté en Europe un certain George Harrison. On évoque les autres instruments avec lesquels Kevin Dellard se produit, ses activités, son actualité, et puis on écoutera ensuite un extrait de Death Have Mercy, de son dernier disque en date.
Avec Kevin Dennard ici, donc à l'auditorium de la médiathèque de Pau, bonjour.
Bonjour.
Ravi de te rencontrer enfin, parce que j'avais entendu parler de toi depuis plusieurs années maintenant, notamment à travers la programmation de Jazz à Vienne avec notre ami Jean-Pierre Vignola.
Tout à fait.
Et tu t'es associé donc à cette manifestation autour de la mémoire de Jacques Moncantini qui aurait 100 ans cette année.
Oui, tout à fait.
Par rapport à ce que tu as entendu, peut-être vu aussi des images de mémoire de blues réalisées par Jacques Gasser, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Jacques Moncantini? Quel serait, selon toi,
Alors c'est une personne que je n'ai pas eu le temps de côtoyer, de rencontrer, mais de ce que j'ai pu entendre autour de moi, c'est que c'était quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'histoire du blues en France, et que donc c'était quand même un sacré personnage qui aimait ça, quoi. Et bon, après, je ne le connais pas assez pour pouvoir vraiment développer un sujet sur lui-même, quoi.
Alors tu te produis avec un instrument particulier, je crois que vous êtes assez peu en France à utiliser ce Mohanvina, c'est bien ça?
C'est ça.
Est-ce qu'il y a un rapport avec l'instrument que pouvait utiliser George Harrison dans les années 60? Ou Harry Monks au Canada maintenant?
Ouais, tout ça fait. En fait, j'ai découvert cet instrument au Canada. D'ailleurs, je suis parti sur l'île de Harry Monks à Sauce Point Island au Canada. Et c'est là que j'ai découvert en fait le raga music, donc c'est le blues indien en fait. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir ce magnifique instrument entre mes mains. Et puis du coup, Harry Monks a été une grande découverte aussi pour l'inspiration de cet instrument. Et après, j'ai commencé à développer mon propre projet, quoi, personnel.
Alors c'est un instrument qui peut se jouer particulièrement en solo. Mais est-ce que c'est la pratique d'instrument qui peut être également intégrable dans une formation en groupe?
Alors j'ai eu l'occasion de faire une première partie d'un groupe qui s'appelle AWEC, qui sont à Toulouse, et avec Bernard Siam. Et à la fin, on a fait un morceau de Willie Nelson qui s'appelait Spoonful. Et j'avais intégré donc le Mohanvina avec un band derrière qui avait super bien fonctionné, quoi. Donc oui, ça peut éventuellement aussi se mettre dessus, quoi.
Avec la Mohanvina, quel est ton répertoire? Est-ce que tu composes? Est-ce que tu reprends?
Oui, bien sûr. Alors je fais de la composition, éventuellement je reprends quelques standard de blues avec des sources de sonorités indiennes, mais sinon j'ai sorti un album qui s'appelle Ruben Strain, auquel il y a un peu de composition et de reprise, quoi.
Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que ça a déjà été réalisé, le fait
Alors ça a été réalisé en studio à Gruissant.
Oui, voilà. Et je voulais dire le fait d'aller à la source de cet instrument là où il, là où il est né finalement.
C'est... Oui, oui, après moi ce que j'ai compris avec cet instrument, c'est que alors déjà c'est un instrument qui contient 22 cordes, donc ce qui est une mix entre une sitar et une slide guitare. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de règle d'accordage standard comme en métropole. C'est-à-dire qu'en fait, les hindous, ils utilisent cet instrument par rapport à leur propre spiritualité. Et du coup, moi, j'ai mis quelques années pour pouvoir trouver mon propre accordage personnel pour pouvoir l'adapter avec le blues. Et après, il y avait tout un travail de lutherie, de tension de cordes pour que ça puisse aussi bien fonctionner, quoi.
Quelle est la réponse du public en général à la découverte de cet instrument?
Fabuleux. Voyage. Un grand voyage. Non, voyage, c'est un instrument qui fait voyager, quoi.
Kevin Dennard, tu te produis également à la guitare?
Oui, bien sûr. Alors, je fais du banjo, je fais de la slide guitare, harmonica, stompbox avec les pieds. Je chante, j'essaye.
En one man band?
Tout ça fait. Et je fais de la cigar box aussi et du Mohanvina.
Qui fabrique tes cigar box? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est
un luthier? Non, pas du tout. C'est un instrument qui a été fabriqué par Gwen Wickland au Canada.
D'accord.
À Vancouver.
Voilà. L'actualité de Kevin Dennard, pour conclure cette petite interview, il y a des concerts prévus au cours de l'année 2025.
Alors actuellement, je me suis pas encore, en fait j'ai changé un peu de vie parce que je suis professeur de guitare aussi à côté, donc à Silver Wolf Music à Lons. Donc je suis arrivé en septembre, donc j'ai eu un petit changement de vie là-dessus. Mais oui, je compte bien sûr éclaircir et élaborer mon style, ou que je voudrais mettre un peu du handpan dessus, quelque chose d'un peu nouveau, quoi.
Très voilà. Bien.
Donc, que je suis plutôt un peu dans l'inspiration de création, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Oh, there's a hawk and sea, and the cold mist running over me. Trace my swanna, trace my limbs. Is that you will just begin to win? Oh, death. Have a mercy, will the peace is charged.
Kevin Dennard en mini interview et puis un extrait de Death Have Mercy sur l'album Robin Train en 2019. Septième et dernière interview pour aujourd'hui, un extrait de l'une des trois interviews que Jacques Morgantini a offerte à Sweet Home Chicago. Depuis chez lui à Gand, accompagné de Jacques Gasser, il répondait par téléphone à mes questions juste après la sortie de Mémoire de Blues, le double DVD consacré à Jacques Morgantini, l'homme qui en France aura littéralement découvert le blues. Ces instants choisis sont une délectation pour qui s'adresse à nos musiques chéries, aux hommes qu'il a côtoyés et qui ont pour beaucoup franchi le seuil de sa porte. L'homme est plein de ressources, de références, de passion et d'humour. Jugez-en. Je vous laisse avec Jacques Morgantini dans l'extrait de cet enregistrement capté en direct par téléphone sur Radio 666. Alors nous sommes le 3 septembre 2016 et on y parle notamment de Big Bill Bronzy qu'on écoutera juste après. Jacques Gasser, est-ce que je peux te demander une faveur ?
Oui.
Est-ce que je peux te demander de nous présenter l'homme qui se trouve assis à côté de toi, qui s'appelle Jacques Morgantini ?
Oui, alors en fait, il semblerait que ce soit une icône du blues. Tu vois, une sorte d'iconoclaste pour la bourgeoisie bien pensante et une iconoplasticien musical, si tu veux. D'accord. C'est un mec qui est différent dans l'approche et la compréhension de la connaissance du blues. D'ailleurs, on a, à ce propos, on a failli le pendre à de multiples reprises. Hein. Voilà. C'est en fait cette différence-là qui fait la référence.
Bonjour, monsieur Morgantini, comment ça va ?
Eh bien, mon jeune ami, ça va très bien. J'ai appris que vous étiez né, je crois, en 1963.
C'est ça, exactement.
Ce qui vous fait prendre de la hauteur par rapport à vous.
Ben, je crois, hein, effectivement, on vous doit le respect parce que 1924, c'est une autre époque qu'on n'a pas connue. Et voilà, ça veut dire que, par exemple, vous aviez 20 ans lors de la libération, pendant le débarquement. Voilà, ça, c'est des choses qui font rêver hein, les gens, et encore plus les jeunes, parce que mon jeune ami, c'est bien gentil, mais à 53 ans, je prétends plus trop à ce titre. Il y a des gens, voilà, qui continuent à naître tous les jours et pour certains, à perpétuer un petit peu le peu du grand souffle que vous avez su apporter à la France. Et donc, je veux parler de quoi ? De tout simplement l'apport du blues en France, parce que je crois que c'est à vous qu'on le doit.
Eh bien, vous êtes bien honnête, comme dit ma crémière. Alors, je dois vous dire une chose, c'est que j'ai rencontré, si je peux me permettre de parler pendant quelques secondes.
On peut, c'est fait.
Interrompu par vous. Donc, j'ai connu le blues assez vite. Parce que j'ai été, en 1938, j'ai rencontré le jazz et je ne m'en suis jamais relevé. Et là, j'ai été particulièrement épris de la musique que j'entendais, par exemple de l'orchestre de Count Basie, où il y avait ce qu'on a appelé un blues shouter, un chanteur de blues, mais au sein des orchestres de jazz comme Jimmy Rushing.
Ouais.
Et il y en avait un autre qui a toujours été un de mes favoris, sinon le favori, c'était Big Joe Turner, le grand chanteur de Kansas City, accompagné par Pete Johnson. Et ceux-là m'ont amené ensuite à d'autres musiciens. Et un jour, je dois vous dire que très vite, dès la libération, j'ai eu des contacts grâce à mon ami et maître de l'époque, Hugues Palacier. J'ai eu des contacts avec des collectionneurs américains et on procédait, comme je le dis dans Mémoire de Blues, par échange.
Oui, voilà, par le troc, en fait.
J'envoyais 12 disques, ils m'envoyaient 12 disques, etc. Bon, et alors, très vite, j'ai vu sur les listes que mes amis me proposaient des noms que je ne connaissais pas. Sonny Boy Williamson, Big Bill Bronzy, Big Maceo, etc. J'ai demandé à un, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il m'a dit, ce sont des chanteurs de blues, mais c'est des chanteurs de blues ruraux. J'ai dit, ben vous m'en envoyez quelques exemplaires pour que je vois ce que c'est.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, hein, c'est ça l'idée. C'est ça.
Hein. Voilà. Alors, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ben, la vérité, elle est là. Le jazz, s'il existe, c'est parce qu'il y a eu ces gens-là avant. Et j'ai été un des premiers à m'intéresser vraiment au blues, je peux le croire. Et de dire, en Europe, j'ai reçu des disques de Johnny Hooker en 45, par exemple son premier grand tube, Boogie Chillin', oui. Le premier disque qu'avait enregistré Muddy Waters pour la marque Avanche, c'était Aristocrate, oui. I Feel Like Blowing My Horn, et tous ces titres-là, j'ai reçu ça. Et j'ai été absolument ébloui. Et je me suis rendu compte, c'est que Haute Club de France, dont j'avais été élu, enfin désigné par Palacier comme étant le vice-président, ce pendant 22 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait les amateurs de jazz. Alors eux, c'était Lou Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Fats Waller, et puis des grands solistes. Mais quand on leur disait, tiens, mais écoutez, ces musiciens de blues, oh non, on ne veut pas entendre ça.
Est-ce que ça veut dire, monsieur Morgantini,
Non, pas Morgantini. Jacques.
Jacques, pardon. Est-ce que ça veut dire, Jacques, que déjà à l'époque, il y avait une querelle des genres entre amateurs français, entre les amateurs de blues et les amateurs de jazz?
Écoutez, il n'y avait pas d'amateurs de blues. Hein, moi, j'ai été celui qui a défriché ça. Je suis bien obligé de dire hein, parce que...
Oui, mais alors, comment est-ce qu'on explique que ces gens qui étaient éclairés et puis qui aimaient une musique outre-Atlantique n'étaient pas si ouverts que ça à ce fameux blues?
Ben oui, il y en a qui sont restés toujours. Je peux vous dire que j'ai des amis intimes, hein, depuis 1940, des amis qui étaient incollables sur tout ce qu'avait fait Coleman Hawkins ou Johnny Hodges ou des gens comme ça, tous les grands solistes du jazz, hein. Eh bien, quand je leur disais, mais écoute ça, oh non, moi c'est Braillard, wow. Ça me dit rien.
C'est
ils
Braillard.
N'étaient pas attirés, c'était pas de l'hostilité, ils n'étaient pas attirés par ça. Absolument stupéfait.
Les Blue Shooters qualifiés de Braillard, incroyable.
Voilà.
Il y a des querelles célèbres. Hugues Panassier a suscité pas mal de remous. Hein. Je ne sais pas si à un moment donné, vous vous souvenez, Jacques, à la disparition de Bigby Brandsey en 1958, il y a des gens qui ont dit que le blues était mort en même temps.
Oui, c'est ça. Ben, je peux vous dire à propos de Bigby Brandsey ceci, car c'est la vérité historique. J'ai su par un correspondant américain qui s'appelait James Martin, je me souviens de son nom, il était étudiant à l'université d'Ann Arbor, dans le Michigan, c'est pas loin de Chicago. Oui. Et il m'écrit un jour, tiens, j'ai cru voir dans les couloirs qui passait la serpillière. Il ressemblait à Bigby Brandsey.
Wow.
Je lui ai demandé, pardon, est-ce que c'est vous Bigby Brandsey? Il a dit, oui, c'est moi. Aussitôt, j'ai pris le téléphone, parce qu'on se téléphonait de temps en temps, avec cet ami. Je lui ai dit, il faut lui sauter sur le poil tout de suite.
C'est clair.
Tout de suite.
Ouais.
Prendre son adresse, etc. Et moi, je vais lui écrire, parce que je veux le faire venir en France. Et avec l'aide de... J'en ai parlé à Panassier, avec l'aide du Hot Club de France, je me souviens avoir envoyé la première lettre à Bigby Brandsey, qui était rédigée, William Lee Conley, Bigby Brandsey.
Mmh.
C'était son nom en langue. Et il a répondu positivement, et on l'a fait venir en France.
C'était en quelle année? 1951, c'est ça?
1951. Et alors, il a joué dans tous les clubs qui étaient rattachés au Hot Club de France. Hein, il a donné des concerts, dont des concerts à Pau, évidemment, et à Bayonne aussi, parce que je m'occupais du Hot Club de Bayonne. Et là, on a eu la chance qu'il reste pendant 8 jours à Pau. Et il venait tous les jours chez mes parents.
Il faut quand même rappeler une chose, Jacques, c'est qu'à l'époque, vous étiez encore une espèce de Tanguy, hein, c'est ça?
Hein? Eh bien oui, j'étais Tanguy.
Voilà.
La maison de mes parents était confortable, il y avait en plus du personnel qui pouvait ramasser mes chaussettes et mes caleçons et les nettoyer. Alors, donc, ça a changé quand j'ai épousé ma femme.
Oui, j'imagine. Et Jacques Gasser à côté, en train de se fendre la pêche aussi.
Écoutez, chacun est élevé. Ma mère était en admiration devant son fils. Elle a prouvé tout ce que je faisais. Hein. Ce qui n'a pas été le cas de ma femme, qui m'a dit, les chaussettes, il y a un endroit pour les mettre. Dans ça, dans 20 ans, elles seront encore là.
Est-ce qu'elle a ramassé les chaussettes de Bibi Brandsey en même temps?
Ah ben là, écoutez... ça commence à devenir un peu trop personnel.
Ah d'accord, ça marche. On va passer à un autre sujet alors.
Alors, Bigby Brandsey, oui. Moi j'avais déjà collectionné énormément de disques de lui, 78 tours, c'était à l'époque des 78 tours de Bigby Brandsey. Et on ne savait rien sur le blues, il n'y avait aucun livre, aucune discographie, aucun renseignement, aucune revue sur le blues dans le monde. C'était deux mondes séparés.
C'est incroyable. Je voudrais qu'on revienne sur cette phrase-là que vous venez de prononcer, Jacques. On ne savait rien sur le blues. Ça, c'est quelque chose que je vous ai entendu dire l'autre jour à Cahors. Ça nous paraît de la science-fiction en 2016. Hein.
Ben oui. Eh ben écoutez, en 51, on ne savait rien sur le blues.
Ouais.
C'est pour ça que Bigby Brandsey a été le premier des grands musiciens de blues à venir en tournée en France. Et lui, à Chicago, il avait un rôle important. C'était une sorte de grand frère qui a fait venir des tas de musiciens. C'est lui qui a fait venir Memphis Lim de Memphis. C'est lui qui a promu beaucoup de musiciens, qui a aidé Muddy Waters quand il est arrivé. Et alors, c'est pour ça que je dois dire une chose, c'est que Bigby nous a m'a aidé à défricher tout ce qu'on ne savait pas sur le blues. Je l'explique un petit peu brièvement dans Mémoire de blues, mais c'est grâce à lui qu'on a commencé à avoir des renseignements sur cette musique.
Hey, baby, hey, baby, hey. love you, baby, but I sure ain't gonna be your dog.
Extrait d'interview de Jacques Morgantini en 2016 et puis Big Bill Bronzy avec Hey Hey, nous sommes en 1957, enregistré par Pete Seeger, s'il vous plaît. La ville de Pau connaît le blues et l'a bien montré, il faudrait un Jacques Morgantini dans chaque ville de France pour faire connaître à notre pays plus efficacement encore ce qu'est le blues et ce qu'il représente pour l'ensemble de toutes les musiques qui en découlent. Gospel, jazz, rock, soul, rhythm and blues, funk, pop, disco, rap, hip-hop. Connaître le blues pour un musicien ou pour un mélomane, c'est l'assurance de pouvoir aller vers les autres musiques en toute connaissance de cause et y revenir régulièrement avec plaisir et passion. Autant pour le blues d'hier que celui d'aujourd'hui, comme le font par exemple la team joyeuse et passionnée des Super Soul Brothers autour de David Noël, de Pau précisément. Les voici avec un extrait de leur dernier album en date, By the Way, et le titre One More Day.
I wanna live, one more day. Just live to see my darling, one more day. I'm so tired of fighting, fighting against the mighty evil that it's loading me alive. Lord, you tell me why. I'm trying to own spaces for you, Lord, yeah. But it hurts too hard for me to possess, yeah. I wanna feel my darling to love enough. More day, oh, just one day, a bright day with my darling, with my undying about. I'm talking about every child, man and woman, a soul that's so deep in their flesh and bones, every day and every night. I'm talking about every deep that the whole of the left up of the big sea. Oh yes, one day we finally will cure. Until then, love, love and soul are the best thing we can going on. I want to live. One more day, just one day, Friday, with my darling, with my undying love. This love, give me one more day to live. Just one more day to live. I don't wanna die.
One More Day, extrait de la dernière production de The Super Soul Brothers chez Dixie Frog by The Way. Merci à tous les protagonistes de cette belle aventure, aux interviewés, aux musiciens, aux institutionnels pour cette première édition du Mois du Blues à Pau. Et rendez-vous en décembre 2025 pour la seconde. La semaine prochaine, les invités de l'émission sont Jacques Picard et Johnny Gallagher. Salut, bye bye.